Les cours du Collège de France, Didier Fassin, chaire questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines.
Nul de nous n'est sûr d'échapper à la prison, aujourd'hui moins que jamais. Sur notre vie de tous les jours, le quadrillage policier se resserre dans la rue et sur les routes, autour des étrangers et des jeunes. Le délit d'opinion est réapparu, les mesures anti-drogue multiplient l'arbitraire. Nous sommes sous le signe de la garde à vue. On nous dit que la justice est débordée. Nous le voyons bien. Mais si c'était la police qui l'avait débordée? On nous dit que les prisons sont surpeuplées. Mais si c'était la population qui est emprisonnée? Ainsi commence le texte écrit par Michel Foucault, texte co-signé par l'écrivain Jean-Marie Domnach et l'historien Pierre Vidal-Naquet, est généralement considéré comme le manifeste du GIP, le groupe d'information sur les prisons. Il est lu le 8 février 1971 lors d'une conférence de presse à la chapelle Saint-Bernard, dans les sous-sols de la gare Montparnasse, où s'est déroulée une grève de la faim en soutien aux militants emprisonnés, engagés eux aussi dans cette même forme de lutte pour la reconnaissance de leur statut comme prisonniers politiques. Dès ses premières lignes s'annonce le contexte de répression croissante de cette période et de protestations radicales contre l'ordre établi. Ce sont en effet dans plusieurs pays européens, dont la France, les années de plomb, expression apparue une décennie plus tard dans le titre d'un film de Margarete von Trotta et empruntée à un poème de Friedrich Hölderlin, Die Bleierne Zeit. Dans le cadre d'une contestation à la fois du système capitaliste, de l'impérialisme états-unien et des compromissions des pouvoirs politiques nationaux, les mobilisations étudiantes sont durement réprimées par les forces de l'ordre, en Allemagne et en Italie notamment. Des mouvements d'extrême-gauche d'inspiration, souvent maoïste ou anarchiste, s'engagent dans des actions violentes. C'est le cas de la fraction Armée Rouge avec le groupe Bader-Meinhof en Allemagne, où la critique porte en particulier sur le passé nazi jamais entièrement soldé, et des brigades rouges et de Lotta Continua en Italie, où les attentats les plus meurtriers sont cependant dus à l'extrême droite néofasciste. Mais ce sont aussi en Espagne le mouvement ibérique de libération en lutte contre le régime franquiste, agonisant, et en Grèce, l'organisation révolutionnaire du 17 novembre, engagée dans la lutte contre la dictature des colonels. Quant aux États-Unis, s'y déroulent les grandes mobilisations pour les droits civiques des Noirs et contre la guerre du Vietnam. En France, la contestation issue de la révolte de mai 68 est marquée par des heurts avec les forces de l'ordre, des incendies de commissariats, des sabotages de grues, des attaques d'usines, des violences contre des cadres et des occupations d'universités. La gauche prolétarienne que dirigent Benny Lévy et Alain Gesmard en est le fer de lance. Née au début de l'année 1969, cette organisation maoïste, qui multiplie ce que Michel Foucault appellera des illégalismes, publie l'hebdomadaire La Cause du Peuple, fondé un peu plus tôt par Roland Castro, dont les numéros sont saisis chaque semaine sur ordre du ministre de l'Intérieur, tandis que ses deux directeurs successifs sont interpellés et écroués dans l'attente de leur jugement. Ce qui conduit à proposer Jean-Paul Sartre, personnalité jugée trop célèbre pour être emprisonnée, d'en prendre la tête. Tout au long de cette période, le gouvernement ne cesse de durcir sa position, produit des décrets et des lois pour sanctionner les désordres, cautionne les violences policières contre les militants et les journalistes. Interdite officiellement en mai 1970, la gauche prolétarienne, dont de nombreux membres devenus illégaux, font l'objet d'arrestations et de poursuites, déploie désormais son activité clandestinement. Le Secours Rouge, association de solidarité avec les victimes de la répression, naît de la rencontre d'anciens résistants, de chrétiens de gauche et de figures de mai 68, auxquelles se joint Jean-Paul Sartre. Plus confidentiellement est créée au sein de la gauche prolétarienne une cellule qui se donne pour objectif la défense de ces quelques 200 militants incarcérés. Animée par Serge Julie, cette organisation des prisonniers politiques coordonne une grève de la faim dont des activistes au sein de la prison tout en s'efforçant de mobiliser des intellectuels à l'extérieur. C'est dans ce cadre, dans le cadre de cette initiative, que s'inspirant d'une expertise réalisée par des médecins et des ingénieurs à la demande du tribunal populaire de Lens, mis en place au lendemain d'un coup de grisou qui a tué 16 personnes dans une mine du nord de la France, le sociologue Daniel Defer, membre de la cellule, propose la constitution d'une commission d'enquête sur la situation des prisons, dont la direction serait confiée à celui qui est alors son compagnon, Michel Foucault. À ce moment, le philosophe, tout auréolé du succès de ses livres, de sa nomination en 1969 comme professeur de philosophie au Centre universitaire expérimental de Vincennes, nouvellement créé, et surtout de son élection en 1970 à la chaire Histoire des systèmes de pensée du Collège de France, est devenu un intellectuel public et même un activiste en vue. Étant passé à côté du vent de rébellion de 1968, à distance duquel il s'est tenu, il se jette dans l'arène politique en défendant en France, à la Mutualité, les étudiants menacés d'expulsion de leur université et aux États-Unis, le mouvement des étudiants pour une société démocratique opposé à la guerre du Vietnam. Sollicité donc par les émissaires de la gauche prolétarienne qui, tout anti-intellectuel qu'il soit, car l'action doit prévaloir sur la réflexion, voit en lui une figure honorable pour incarner cette lutte, Michel Foucault accepte la mission. Il réunit chez lui une vingtaine de personnalités de la justice, de l'administration pénitentiaire et du monde académique. Mais plutôt que la commission d'enquête qu'il est censé mettre en place, il propose de former ce qu'il nomme le groupe d'information sur les prisons, ultérieurement connu sous l'acronyme GIP, donc. De l'expérience de Lens, il a en effet guère apprécié la formule de tribunal populaire, dans lequel Jean-Paul Sartre a joué le rôle de procureur, car elle lui rappelle trop, dit-il, l'institution judiciaire. Mais il en a retenu le principe des témoignages de mineurs recueillis par les médecins et les ingénieurs. Dans cette même logique, l'idée du GIP implique que ce soit les prisonniers eux-mêmes qui renseignent les documents, ce qui suppose dès lors que la circulation de questionnaires s'effectue de manière discrète, voire secrète. Parlant de canaux souterrains et multiformes, Daniel Defer écrit que le groupe doit être un réseau anonyme, protégé par trois personnalités respectées, notamment sur le terrain de la vérité et de l'enquête. Il s'agit en l'occurrence de Jean-Marie Domnac, ancien résistant, directeur de la revue Esprit, militant de toutes les causes progressistes, Pierre Vidal-Naquet, historien de la Grèce antique, engagé dans la torture, contre la torture par l'armée française pendant la guerre d'Algérie, militant de la lutte contre le négationnisme de la Shoah, et Michel Foucault, dont les travaux sur l'enfermement des indésirables et des fous annoncent ceux à venir sur l'institution carcérale. Les autres participants à la réunion, supposée fondatrice, ne sont guère convaincus par le dispositif ainsi imaginé, eux qui avaient espéré la constitution d'un tribunal populaire. La création du GIP est néanmoins officialisée lors de la conférence de presse du 8 février 1971, au cours de laquelle les avocats des militants emprisonnés disent avoir reçu l'engagement du garde des Sceaux à mettre en place une commission destinée à donner à ces derniers un statut spécifique, ce qui interrompt ainsi les grèves de la faim. Dans les semaines qui suivent, un questionnaire abordant une centaine d'aspects de la vie en prison est établi par un petit groupe de philosophes et sociologues. Il est distribué furtivement dans les files d'attente pour les parloirs à l'entrée des établissements pénitentiaires par des militants, des anciens prisonniers et des parents de détenus. Ainsi est-il introduit dans l'institution carcérale sans que l'administration puisse véritablement s'y opposer. 3 mois plus tard, enquête dans 20 prisons paraît, première, d'une série intitulée « Intolérable ». La quatrième de couverture débute ainsi. Sont intolérables les tribunaux, les flics, les hôpitaux, les asiles, l'école, le service militaire, la presse, la télé, l'État. Au-delà de cette formule provocatrice, l'objet de la plaquette est « ce qui se passe dans les prisons ». Dans la communauté qui annonçait sa naissance, le GIP parlait déjà d'une enquête intolérance, expression, avec ce mot d'ordre que l'intolérable, imposé par la force et le silence, cesse d'être accepté. Notre enquête n'est pas faite pour accumuler des connaissances, mais pour accroître notre intolérance et en faire une intolérance active. Pour autant, Michel Foucault ne cesse de le rappeler, comme il l'a fait dans sa déclaration en forme de manifeste, ce n'est pas à nous de suggérer une réforme. Nous voulons seulement faire connaître la réalité. Il s'agit d'alerter l'opinion et de la tenir en alerte. À ceux donc qui reprochent au GIP de ne pas proposer d'amélioration de l'institution carcérale ou d'alternative au système pénitentiaire, la réponse est toujours la même, tel n'est pas son objet. Il est de permettre aux prisonniers de s'exprimer sur les conditions de leur détention. Si j'ai longuement présenté la naissance du GIP, dont Philippe Artière, Laurent Quérault et Michel Zancarini-Fournel ont reconstitué l'archive, c'est qu'il faut comprendre comment le travail de Michel Foucault sur la prison trouve sa source dans ce moment historique singulier dont les auteurs soulignent à la fois le climat d'exception, avec une répression croissante des mouvements sociaux et des mobilisations politiques, et de la redéfinition du militantisme des intellectuels, combinant une radicalisation de la pensée, une action de nature quasi insurrectionnelle et une alliance stratégique avec des acteurs des métiers du social et des partis d'extrême gauche. Moment d'effervescence difficile à imaginer un demi-siècle plus tard, dans une société où les intolérables d'hier sont les tolérés d'aujourd'hui, où la parole publique est contenue par le pouvoir et les médias, où les intellectuels sont remplacés par les commentateurs et les influenceurs, où le fléau de la balance idéologique s'est déplacé de la subversion vers la réaction, où, pour reprendre la formule du juriste et politiste états-unien Bernard Harcourt, certes à propos de son propre pays, mais aisément extrapolable à une grande partie du monde occidental, la tendance est à la contre-insurrection. Il ne serait pas excessif de dire qu'en ce début des années 1970, alors qu'il vient de prononcer sa leçon inaugurale au Collège de France, l'ordre du discours, Michel Foucault trouve sa voie d'intellectuel public, en même temps qu'avec la prison, il se découvre une cause à défendre. Comme le relève son biographe David Massey, au cours des années précédentes, à Tunis puis à Vincennes, il a été porté par les événements. Avec le GIP, il en devient l'instigateur. Un espace s'ouvre devant lui. De la figure de l'intellectuel total, dont Jean-Paul Sartre est l'incarnation et dont il a toujours cherché à se démarquer, l'étoile pâlit. À l'inverse, Michel Foucault affirme que les personnes détenues ont une, dit-il, une théorie de la prison, de la pénalité et de la justice, comme il le dit dans un dialogue avec Gilles Deleuze en 1972 sur les intellectuels et le pouvoir, et c'est là une vision quasi gramscienne de l'intellectuel. C'est donc ce contexte qui permet de comprendre les premières lignes de la version écrite de son cours au Collège de France intitulé « Théorie et institutions pénales » le 24 novembre 1971, version écrite puisqu'on ne dispose pas de l'enregistrement. Je cite, pas d'introduction, la raison d'être de ce cours, il suffit d'ouvrir les yeux, ceux qui y répugneraient s'y trouveront dans ce que j'ai dit. Il va s'agir en effet de replacer ces théories et institutions pénales dans leur fonctionnement d'ensemble, c'est-à-dire dans des systèmes de répression. Pour les auditrices et les auditeurs, le propos est transparent. Comme l'observe le philosophe italien Daniele Lorenzini, il y a entre les cours théorie et institutions pénales et la société punitive l'année suivante une évolution fondamentale qui trouvera sa forme aboutie avec Surveiller et punir en 1975. Cette évolution, c'est le passage de la répression à la discipline, autrement dit d'un pouvoir coercitif à un pouvoir productif. Il importe de suivre le cheminement de la réflexion de Michel Foucault, de voir comment il se reprend et se désavoue, de rendre compte de ses hésitations et contradictions assumées. Car le travail intellectuel procède comme le travail scientifique par essai-erreur. Peu d'auteurs ont autant que lui fait de cette méthode leur manière de penser. Le cours donc de 1972 a une construction assez étrange. Elle juxtapose deux parties de nature très différente. Les sept premières leçons sont consacrées à l'étude d'un soulèvement populaire en Normandie en 1639 et de sa répression. Les six suivantes à l'analyse du droit pénal médiéval et de sa transformation au fil des siècles sous l'effet du pouvoir royal. Deux temporalités, l'une très courte, l'autre très longue, et deux spatialisations, l'une locale, l'autre nationale. Faut-il parler, comme font François Ewald et Bernard Harcourt dans leurs commentaires, d'une double généalogie ? Dans ce cas, l'une serait typiquement foucauldienne, celle du soulèvement populaire, autour d'un événement précisément situé marquant la naissance d'une nouvelle réalité, en l'occurrence l'État répressif. L'autre plutôt nietzschéenne, celle sur la formation de l'État pénal, inscrite dans une durée extensive et lâchement définie, avec le remplacement progressif du droit germanique par une justice d'État. L'articulation entre les deux n'est toutefois pas évidente, ni le résumé du cours d'une grande aide pour la saisir. La révolte des nu-pieds est au début du XVIIe siècle l'une des nombreuses rébellions régionales en réaction à la pression fiscale décidée par le pouvoir royal, qui exige de nouveaux impôts pour combler le déficit de son budget. Elle survient à la suite de la suppression du privilège du quart bouillon, qui permettait jusqu'alors aux habitants de Basse-Normandie, en faisant bouillir la saumure des salines, de récolter du sel, dont le quart était donné au roi, qui le revendait avec une taxe, le reste étant commercialisé sans taxe par les producteurs. Désormais, donc, le sel doit être placé en totalité dans les greniers royaux, où il est revendu au triple de son prix au titre de la gabelle. La population s'insurge contre cette mesure et s'en prend à des représentants de l'État. À Avranches, Bayeux, Caen, Rouen, des agents du fisc sont assassinés, des bâtiments sont détruits, des biens sont pillés. Ni la bourgeoisie, ni les parlementaires, ni les autorités locales ne s'opposent à cette sédition mêlant ouvriers et paysans, soutenus par des prêtres et quelques nobles qui voient d'un mauvais œil l'extension du pouvoir royal aux dépens des prérogatives seigneuriales. Sur ordre de Richelieu, l'armée intervient brutalement pour rétablir l'ordre, tuant ou exécutant des centaines d'insurgés. Envoyé un peu plus tard, le chancelier de France, Pierre Séguier, orchestre la répression à travers, d'une part, le déploiement de l'appareil judiciaire pour punir les fauteurs de troubles, et d'autre part, la rétorsion contre les autorités, tant municipales que parlementaires, qui, malgré leur amende honorable, se voient révoquées. Dès le début du cours, Michel Foucault avait déclaré vouloir éviter de poser les problèmes en termes de morale, en termes sociologiques, en termes psychologiques, et c'est ce qu'il a fait. Il les aborde d'un point de vue politique, et plus précisément sous l'angle du pouvoir. En ce qui concerne l'insurrection, elle s'attaque, dit-il, presque exclusivement au pouvoir royal qui vient d'imposer de nouvelles contraintes fiscales. Elle met de plus en plus en jeu des rapports de force entre les masses paysannes et ouvrières d'un côté, les classes privilégiées dont quelques membres encouragent pourtant les rebelles, mais dont la plupart laissent faire de l'autre. Quant à la répression, elle manifeste précisément le rétablissement du pouvoir absolutiste. D'abord avec l'opération militaire, qui implique que ceux qui ont tué et dévasté ne sont pas des criminels ou des délinquants, mais bien des ennemis, interprétant leurs protestations dans le langage de la guerre. Ensuite, avec le représentant de l'autorité royale, qui démet les autorités locales de leurs fonctions, mais conçoit la réponse du pouvoir sous la forme d'une cérémonie politique habilement scénographiée. Pour Michel Foucault, donc, la révolte des nu-pieds de 1639 est un moment important de l'histoire de l'État, car le pouvoir a réalisé à cette occasion que pour protéger son appareil fiscal des risques de sédition, il lui fallait un appareil répressif. Mais les instruments mis à sa disposition ne sont plus suffisants. La répression doit s'appuyer sur trois nouvelles institutions, des intendants de justice, représentant l'autorité centrale, une police, comme force armée mêlée à la population, un dispositif d'enfermement ou de déportation permettant la soustraction des catégories dangereuses. C'est dire que cet appareil répressif n'est pas mis en œuvre pour lutter contre les crimes et les délits, mais pour combattre les luttes du peuple contre le pouvoir. Par son rôle de défenseur de l'ordre public et par sa substitution au dispositif féodal, l'appareil répressif d'État permet dès lors à la bourgeoisie d'investir sa richesse dans l'économie et devient ainsi un instrument de l'essor du capitalisme. Telle est la thèse défendue. Parvenu à ce point, Michel Foucault s'efforce de montrer comment le nouveau dispositif, et l'on change donc de registre, le nouveau dispositif se différencie de l'appareil judiciaire féodal. S'inspirant des travaux d'historiens, il rappelle que dans le haut Moyen-Âge, tandis que le droit romain s'imposait dans les affaires publiques et privées, c'était le droit germanique qui prévalait en matière pénale. Dans ce cadre, pour éviter diverses formes de vengeance, les litiges étaient le plus souvent réglés par une compensation codifiée du dommage subi, notamment par le versement d'un ce qu'on appelait un Wehrgeld, en réparation, sans que le passage devant un tribunal et la décision d'un juge ne fussent nécessaires. Cette composition évitait la poursuite des conflits en permettant la clôture du cas, et ce règlement n'était pas considéré comme une punition. Progressivement, cependant, cette solution négociée est remplacée par l'institution d'un appareil judiciaire amené à trancher les litiges dans le cadre d'une action publique qui doit établir la vérité des faits et de décider l'éventualité d'une peine. L'infraction devient une faute. Elle doit être rachetée par un châtiment. Si l'influence du christianisme et donc le rôle de l'Église sont évidents, ils ne suffisent pourtant pas à expliquer cette évolution qui relève aussi d'une logique économique. Dans le nouveau dispositif, en effet, les juridictions se multiplient localement, les charges correspondantes deviennent lucratives, les sanctions appliquées sont le plus souvent des amendes et des confiscations qui peuvent faire l'objet d'arrangements, donc de circulation des richesses et des transferts de propriété. Mais au fil des siècles, l'autorité du souverain s'étend, le pouvoir central se renforce, la fiscalité d'État se développe, défendue par une justice royale. La pression sur le peuple et la menace sur l'ordre féodal entraîne des crises qui se résolvent par la répression et bientôt l'emprisonnement. D'économique, qu'elle était par les sanctions financières ou foncières, la pénalité devient alors ce que Michel Foucault qualifie de carcéraire. L'échange est remplacé par l'exclusion. Si le cours de cette année-là est ainsi nourri d'une importante recherche à partir de la littérature sur la sédition des nu-pieds et sur l'histoire de la justice pénale en France, il n'en reste pas moins à la fois elliptique, foisonnant, difficile à décrypter et dès lors parfois surinterprété, dans la mesure où n'en subsistent que les notes sans l'enregistrement grâce auquel se fera la publication des cours suivants. On peut à certains égards avoir l'impression d'un défaut d'administration de la preuve, notamment dans le choix du soulèvement de la Basse-Normandie comme moment de l'émergence d'un appareil répressif d'État, si l'on considère que l'uniformisation d'une police du royaume date d'un édit promulgué 60 ans plus tard, et que l'intégration de la prison comme sanction dans le droit pénal intervient un siècle et demi après la révolte, tout comme on peut avoir le sentiment d'un certain raccourci analytique lorsque, par exemple, la naissance de la justice royale est présentée comme favorable au développement du capitalisme du fait de la possibilité pour la bourgeoisie de déplacer ses investissements. Néanmoins, de ce cours riche et touffu, on peut retenir au minimum deux éléments. Premièrement, en termes de méthode, il y a l'importance accordée à l'événement, en l'occurrence la rébellion de 1639, en lien avec la répression à laquelle elle donne lieu. Dans la célèbre table ronde déjà évoquée, qu'organisent des historiennes et des historiens le 20 mai 1978, Michel Foucault s'en expliquera. J'essaye de travailler dans le sens d'une événementialisation. par ce néologisme qui l'inscrit en faux contre le structuralisme, il entend que là où l'on serait tenté de se référer à une constante historique ou à un trait anthropologique immédiat ou encore à une évidence s'imposant de la même façon à tous, il s'agit de faire sortir une singularité. Mais l'événement ne prend sens que par les processus multiples qui les constituent et par les relations d'intelligibilité externes avec d'autres phénomènes sociaux. Deuxième élément, sur le plan théorique cette fois, il y a la place centrale attribuée aux relations de pouvoir dans les transformations du dispositif judiciaire et l'avènement de l'appareil répressif, aussi bien dans la période médiévale qu'à l'époque moderne. Dans cette lecture résolument politique, les rapports de production sont étroitement liés aux rapports de pouvoir, et loin d'être une superstructure, la justice devient l'instrument à l'œuvre entre les deux. Il s'éloigne ainsi nettement de l'analyse marxiste et notamment des thèses de Louis Althusser sur les appareils idéologiques d'État, comme il le commente dans un entretien de 1975. Le cours se situe donc dans les discussions de son temps, avec l'événement contre le structuralisme, avec le pouvoir contre le marxisme. On a très justement insisté sur l'inscription des 7 premières leçons dans le débat autour de l'interprétation des soulèvements populaires. Et il faut à cet égard citer que l'année même du cours, 1971, est aussi celle de la publication de l'article d'Edward Palmer Thompson, « The Moral Economy of the English Crowd in the 18th Century », l'économie morale de la foule anglaise au XVIIIe siècle, texte bien plus influent que ne l'aura été le cours sur les théories et institutions pénales de Michel Foucault. Plutôt que dans le registre des rapports de production ou des rapports de pouvoir, l'historien britannique, E.P. Thompson, y interprète les révoltes populaires en termes d'économie morale, c'est-à-dire au regard des conditions dans lesquelles le non-respect par les puissants des obligations et des normes qui caractérisent le contrat social implicite pouvait déboucher sur la colère et sur une insurrection. Une dimension que Michel Foucault ignore, héritier malgré lui de l'analyse marxiste et suspicieux également de tout vocabulaire moral. Avec le cours La société punitive l'année suivante, 1973, le sens de la pénalité se transforme radicalement, voire dans certains cas s'inverse. Dès la première leçon, Michel Foucault revient sur l'idée d'exclusion présentée l'année précédente comme caractéristique, selon la formule qu'il utilise, de notre système pénal. La question posée dans la société médiévale « qui doit être racheté ?» étant alors, selon lui, remplacée par la question posée dans la société moderne « qui faut-il exclure ?» Donc, l'enfermement signifiait alors, dans cette version antérieure de l'année précédente, la manifestation concrète de l'exclusion. Or, cette dernière notion lui paraît désormais trop large et surtout composite et artificielle, ce sont ses mots, ne permettant pas d'analyser les luttes, les rapports, les opérations spécifiées du pouvoir. Et il conclut, « Ainsi, l'objet latéral et permanent de ce cours sera une critique de cette notion d'exclusion. » Elle était pourtant centrale dans la leçon inaugurale de l'ordre du discours 2 ans plus tôt. Dans les dernières séances, Michel Foucault récuse de même l'idée de répression, qui était pourtant au cœur de la démonstration concernant la réponse du pouvoir royal face aux révoltes populaires et la définition moderne de l'appareil d'État. Or, prenant l'exemple de la sexualité au collège au XIXe siècle, il affirme que l'empêchement de l'hétérosexualité et l'interdiction de l'homosexualité visent à établir une norme interne à l'institution scolaire, donc le respect du pouvoir qui doit s'y manifester, et une norme externe pour la future vie en société, soit la projection d'une morale qui prohibe pour la vie future en société, qui prohibe les relations entre personnes de même sexe. Il s'agit d'une normalisation, dès lors affirme-t-il, ce terme même de répression me paraît plus gênant qu'exact. Deux notions qui semblent être essentielles disparaissent ainsi de l'analyse de la pénalité. Exclusion et répression. À leur place, on trouve celle de guerre civile, qui doit être mise, dit-il, au cœur de toutes ces analyses de la pénalité. Il ne s'agit toutefois pas de la guerre de tous contre tous de Thomas Hobbes, qui d'une part y voyait au moins virtuellement un état de nature d'avant le contrat social, et d'autre part en faisait l'expression d'un trait individuel fondé sur la rivalité. La guerre civile est au contraire, pour Michel Foucault, une manifestation qui suppose un pouvoir politique constitué et qui repose sur des éléments collectifs de différentes natures. Je le cite, « La guerre civile est l'état permanent à partir duquel peut et doit se comprendre un certain nombre de ces tactiques de lutte dont la pénalité est précisément un exemple privilégié. Elle est la matrice de toutes les luttes de pouvoir. » Cette guerre civile n'est donc pas une guerre brutale où l'on tue et même on massacre, comme l'avait connu Thomas Hobbes en son temps, mais une guerre en quelque sorte pacifiée, qui oppose des catégories sociales et même dans la société moderne, des classes sociales. C'est ce que montre le traitement de ce qu'il appelle des illégalismes. Prenons l'exemple au XVIIe siècle des tisserands et des marchands du Maine. Michel Foucault rappelle qu'ils s'arrangeaient entre eux pour contourner le système de contrôle des pièces et des métiers, grâce à quoi ils échappaient à certaines des contraintes et certains des impôts, ce qui permettait aux premiers, les tisserands, d'acquérir de nouveaux outils et aux seconds, les marchands, d'accroître leurs profits sur les ventes. Ces illégalismes étaient donc favorables à l'économie locale et ne pénalisaient finalement que les droits seigneuriaux. Mais cette fraude anti-féodale généralisée était tolérée, d'autant plus aisément que les nobles pouvaient eux aussi tirer des bénéfices de certains illégalismes qu'ils pratiquaient soit en contournant les obligations réglementaires en matière de prélèvement, soit en obtenant du pouvoir royal des exemptions fiscales. Au contraire, au XVIIIe siècle, donc deux siècles plus tard, dans le port de Londres, les ouvriers qui développent diverses pratiques de déprédation dans le cadre de leur activité s'en prennent à la propriété. Leurs illégalismes ne sont donc plus acceptables, car ils ne sont pas vus comme commettant une infraction légale, ainsi que l'étaient les artisans et les commerçants normands, mais comme dérobant des biens privés. La réponse pénale comprend deux éléments, le premier de l'ordre de la représentation, le second de l'ordre de l'action. Les voleurs sont vus comme des ennemis sociaux. Leur châtiment est désormais la prison. Mais ceux que lèse ce brigandage, et qui appartiennent principalement à la bourgeoisie, disposent de leur côté de moyens de tromper le fisc, d'une part en faisant jouer leurs privilèges pour échapper aux sanctions, d'autre part en se servant de leur pouvoir pour modifier la loi en leur faveur. Et ce sont des pratiques qui continuent aujourd'hui, comme l'a montré Alexis Speer dans une étude sur l'impôt aujourd'hui. Et la fraude. Deux conclusions donc concernant les illégalismes. D'une part, leur signification et leur acceptation varient dans le temps en fonction du système économique dominant et ils peuvent même être considérés avec bienveillance. D'autre part, les peines qui les sanctionnent ou l'indulgence qu'on leur manifeste dépendent des rapports de pouvoir existants dans la société. Ce serait donc une erreur que de croire que la pénalité sert à lutter contre les illégalismes. Elle les différencie, traitant avec sévérité les illégalismes populaires et mansuétude les illégalismes bourgeois. Il y a ainsi, vers la fin du XVIIIe siècle, une remarquable concomitance entre deux faits qui vont déterminer l'évolution de la pénalité jusqu'à l'époque contemporaine. En effet, observe Michel Foucault, je le cite, à l'époque même où se formulait et se mettait en pratique à l'intérieur de l'institution pénale le principe du criminel ennemi social, apparaît une nouvelle tactique punitive, l'emprisonnement. Mais concomitance n'est pas causalité, précise-t-il. Car les deux faits obéissent à des logiques différentes et la représentation de l'ennemi social n'impliquait pas nécessairement la réponse par l'emprisonnement. Autrement dit, le système pénitentiaire ne découlait pas mécaniquement du dispositif pénal. Le lien entre les deux phénomènes s'explique, selon lui, par un déplacement de la fonction que remplit la mesure judiciaire par rapport au crime. Il ne s'agit plus de réparer une faute, d'expier un péché ou plus séculièrement de punir un criminel pour le crime qu'il a commis, mais de défendre et protéger la société, affirme-t-il en se référant aux grands juristes de l'époque, dont les théories justificatives du châtiment font prévaloir l'utilitarisme de Jeremy Bentham, qui pense, lui, en termes de bien public et donc de réduction de la criminalité, donc prévaloir cet utilitarisme sur le rétributivisme d'Emmanuel Kant, pour qui la justice suppose de payer pour son crime selon la loi du talion, quelles qu'en soient les conséquences. Cesare Beccaria écrit ainsi : le but des châtiments n'est autre que d'empêcher un coupable de nuire encore à la société et de détourner ses concitoyens de tenter des crimes semblables. Parmi les peines et la manière de les infliger, il faut donc choisir celle qui, proportion gardée, doit faire l'impression la plus efficace et la plus durable sur l'esprit des hommes et la moins cruelle sur le criminel. Encore convient-il d'ajouter qu'il y a loin de cet idéal des Lumières à la pratique des révolutionnaires et de leur postérité, et que la peine comme vengeance sociale n'a jamais été absente de la grande réforme pénale ayant conduit à la naissance et au développement du système pénitentiaire. La prison, en tant qu'instrument destiné au châtiment, est donc une innovation tardive. Jusqu'à la Révolution, elle n'est pas véritablement une peine. On enferme dans l'attente d'un jugement afin de contraindre le remboursement d'une dette, ou encore en cas de gêne présumée à l'ordre public ou à l'ordre privé, mais non pas pour punir. L'introduction de cette peine a cependant pour Michel Foucault une signification plus large que l'incarcération en tant que telle. Il parle de forme prison dont il fait le double de la forme salaire, comme étant les deux modalités de gestion du temps des classes populaires par l'économie capitaliste. Le temps étant le seul bien possédé, explique-t-il, on l'achète pour le travail ou on le prend pour une infraction. Le pouvoir exercé sur le temps des catégories modestes, que leurs membres soient des ouvriers qu'on exploite ou des détenus qu'on enferme, revient donc à un pouvoir sur leur vie. Et avec la prison, une expression inédite de la pénalité prend naissance. Il écrit : on ne punit plus par le corps, par les biens, mais par le temps à vivre. Remarquable analyse, qui, si elle minimise la persistance des peines physiques et des sanctions économiques, rend néanmoins intelligible l'emprisonnement comme exercice d'une forme singulière de ce qu'on peut appeler un extractivisme portant sur la vie des êtres humains. À la fin du cours, Michel Foucault revient sur ce qu'il appelle son point de départ. Pourquoi cette institution étrange qu'est la prison ? Comment expliquer en effet que toutes les formes des anciennes punitions, tout ce qu'il appelle ce merveilleux et chatoyant folklore des punitions classiques, le pilori, l'écartèlement, la pendaison, le bûcher, etc., disparaissent au profit de cette fonction monotone de l'enfermement. En fait, pour lui, la prison est bien plus que ce qu'elle paraît être. Elle est une forme sociale par laquelle se manifeste le pouvoir. Elle en est même une expression paradigmatique dont on peut trouver des avatars dans toute la société. Elle donne donc à lire quelque chose de plus large qu'elle-même, à savoir le contrôle et la surveillance, le pouvoir tel qu'il se manifeste aussi à l'usine et à l'école, dans les rapports de production et les relations d'éducation. Au début du cours, Michel Foucault s'était débarrassé des notions d'exclusion et de répression, et avec elle, d'une compréhension du pouvoir comme essentiellement coercitif. Lors des dernières leçons, il leur substitue un nouveau concept qui est promis un bel avenir dans le champ intellectuel. Je le cite : à quoi voulais-je aboutir ? Je voulais faire l'analyse d'un certain système de pouvoir, le pouvoir disciplinaire. Ce pouvoir est selon lui caractéristique des sociétés occidentales à partir du XVIIIe siècle, qui sont dotées, dit-il, d'appareils dont la forme est la séquestration, dont la finalité est la constitution d'une force de travail et dont l'instrument est l'acquisition des habitudes. Force de travail, habitude. On ne peut manquer de voir dans cette formulation du pouvoir disciplinaire à la fois l'influence de Marx et la parenté avec Pierre Bourdieu. Les choses sont cependant plus complexes. D'un côté, bien que l'empreinte marxiste soit évidente en mains endroits du texte, Michel Foucault s'en démarque en considérant que le pouvoir n'est pas seulement ce qui permet la reproduction des rapports de production, mais qu'il en est constitutif. Il l'est par la manière dont il transforme le temps de vie en force de travail, laquelle s'inscrit alors dans l'activité productive capitaliste. Et de l'autre, si la proximité bourdieusienne avec le concept d'habitus, repris dans le fond maussien, apparaît d'autant plus qu'il a été introduit un an plus tôt par le sociologue, Michel Foucault ne pense pas en termes de disposition durable structurée au fil du temps et structurante des rapports sociaux, comme le fait Bourdieu. L'habitude, notion qu'il abandonnera d'ailleurs assez rapidement, relève d'une analyse déterministe plus explicite, puisqu'elle n'est que le résultat du processus de production de normes par les apprentissages et les punitions qui attachent les individus à l'appareil de production. Mais en le qualifiant de disciplinaire, Michel Foucault a donné au pouvoir une dimension productive qui est en rupture avec la plupart des théories qui le voient comme essentiellement coercitif. Ainsi que l'écrit Bernard Harcourt, qui assure l'édition de ce cours, il n'est pas simplement un travail préparatoire au livre de 1975, c'est-à-dire surveiller et punir, mais peut se lire comme un texte complet. Autrement dit, la société punitive n'est pas, comme dans le travail d'un peintre, une esquisse de ce que sera surveiller et punir. Dans une certaine mesure, on pourrait même affirmer que de même qu'il se démarque théoriquement du cours de l'année précédente, il s'émancipe par anticipation du livre à venir en introduisant des notions audacieuses comme celle de guerre civile pour évoquer la pénalisation des classes populaires et des thèses novatrices comme celle d'extraction d'un temps à vivre pour parler de la peine d'emprisonnement, notions et thèses qui ne seront pas retenues dans l'ouvrage ultérieur, qu'on pourrait dire en quelque sorte plus policé, si l'on ose, comme l'est au fond le passage de la licence de l'oral, les cours, à l'exigence de l'écrit, le livre. Surveiller et punir maintenant, bien plus que les cours qui n'avaient pour public que celui présent, certes nombreux dans l'enceinte du Collège de France, puisqu'à son époque, il n'existait pas de diffusion différée de leur version enregistrée et que les publications de ceux sur la pénalité ne sont intervenues que 3 décennies après sa mort, c'est le livre « Surveiller et punir » qui vaudra à Michel Foucault une reconnaissance d'abord nationale, puis internationale de ses recherches sur la prison. C'est son livre le plus, dans sa version anglaise, le plus cité, je l'avais dit. Il exercera une influence durable sur le champ des études sur le monde carcéral, dans lequel il est devenu une référence obligée et suscitera, comme il est normal, débats et critiques de la part des historiens. La célèbre ouverture est un morceau de bravoure littéraire qui fait alterner la description de l'interminable supplice de Damien, ce régicide sans victime, exécuté publiquement en 1757, et l'énoncé du règlement pointilleux d'une maison de jeunes détenus 3/4 siècle plus tard. Ce rapprochement de 2 réalités, qui traduisent 2 façons de punir, marquant un bouleversement de la pensée et de la pratique pénale, est au plan rhétorique très semblable à celui qui introduisait 12 ans auparavant la naissance de la clinique, avec là aussi 2 documents distants de plusieurs décennies au tournant du XIXe siècle, l'un sur les manifestations anatomiques de l'hystérie, l'autre sur les lésions encéphaliques de la paralysie générale, visant à révéler la transformation profonde du regard médical. Dans les 2 cas, donc, il s'agit de choisir 2 traces du passé significatives d'une rupture, politique dans le cas de la justice, épistémique dans le cas de la clinique. Même manière donc, et pourtant 2 qualifications bien différentes de cette manière, car dans le cas du regard médical, Michel Foucault parlait encore d'archéologie, notion dont on a vu qu'il a traité avec moins de solennité qu'on ne le fait parfois dans l'exégèse de son œuvre, alors que dans le cas de la logique punitive, il évoque désormais la généalogie. L'objet de son enquête, écrit-il en effet, c'est une généalogie de l'actuel complexe scientifico-judiciaire où le pouvoir de punir prend ses appuis, reçoit ses justifications et ses règles, étend ses effets et masque son exorbitante singularité. Et plus loin, l'histoire de cette microphysique du pouvoir punitif serait alors une généalogie ou une pièce pour une généalogie de l'âme moderne. Que doit-on alors entendre par généalogie ? S'il ne faut certainement pas s'enfermer dans une définition qui serait contraire à la pensée foucauldienne, on peut néanmoins se référer à ce qu'écrit 2 ans auparavant Michel Foucault dans un hommage à son prédécesseur au Collège de France, Jean Hippolyte, hommage titré « Nietzsche, la généalogie, l'histoire ». Il écrit « La généalogie est grise, elle est méticuleuse et patiemment documentaire, elle travaille sur des parchemins embrouillés, grattés, plusieurs fois réécrits. Il faut donc une indispensable retenue, repérer la singularité des événements, hors de toute finalité monotone. Les guetter là où on les attend le moins et dans ce qui se passe pour n'avoir point d'histoire. Saisir leur retour pour retrouver les différentes scènes où ils ont joué des rôles différents. Définir même le point de leur lacune dans un apparent paradoxe, le moment où ils n'ont pas eu lieu. Et de préciser encore, dans un apparent paradoxe, au regard de l'étymologie du mot, la généalogie s'oppose à la recherche de l'origine. La présentation de l'approche nietzschéenne lui sert en fait à expliquer sa propre démarche, plutôt que la continuité, la rupture, plutôt que la structure, l'événement, plutôt que la généralisation, la singularité. Il s'agit donc de mettre en évidence l'effet pertinent, minime parfois, mais assurément signifiant, qui révèle et atteste des changements majeurs dans la façon dont la société pense et agit. En l'occurrence donc, entre l'ordonnancement cruel du supplice du criminel et l'emploi du temps minutieux du détenu, s'est creusé un fossé dans la conception et la réalisation de l'acte punitif. Selon Michel Foucault, a disparu le corps comme cible majeure de la répression pénale, tandis que la justice ne prend plus en charge publiquement la part de violence qui est liée à son exercice. En somme, on ne torture plus et on n'exhibe plus. Plus de démembrement, plus d'écartèlement, plus d'échafaud, plus de place de grève. Dans ce double effacement, le châtiment, dit-il, est passé d'un art des sensations insupportables à une économie des droits suspendus. Autrement dit, à l'infliction d'une souffrance a été substituée la privation de liberté. Cette évolution implique par conséquent, dans la pénalité, un triple renoncement à son inscription physique, à son caractère douloureux et à sa dimension spectaculaire. Dès lors, je s'interroge Michel Foucault, que serait un châtiment incorporel ? Mais en réalité, la prison est-elle vraiment ce châtiment ? Car, reconnaît-il, elle n'a jamais fonctionné sans un certain supplément punitif qui concerne le corps lui-même, ajoutant à l'enfermement des châtiments souvent cruels. Malgré cette concession, le philosophe revient sans cesse à sa thèse principale, évoquant une atténuation de la sévérité pénale, une douceur accrue des châtiments et même un changement objectif de la sanction, car ce qu'elle cherche à atteindre, assure-t-il, ce n'est plus le corps, c'est l'âme. Un certain flottement est donc perceptible dans l'analyse. Éclipse du corps ou invisibilisation de sa violence ? Abolition de la souffrance ou déplacement de ses manifestations ? Rupture radicale de la pénalité ou simple réaménagement des peines ? À ces questions, l'histoire apporte assurément des réponses éclairantes. Ainsi, dans une étude de la manière dont la justice criminelle traite le corps dans les États européens à l'époque moderne, Peter Spierenburg souligne que prendre l'exécution de Damien comme point de repère de la manière dont on punissait au XVIIIe siècle revient à poser l'exception comme étant la règle. Les sanctions prenaient en effet des formes multiples, du bannissement aux travaux forcés, les amendes demeurant toutefois les plus fréquentes, tandis que la peine capitale devenait de plus en plus rare. En d'autres termes, la focalisation de Michel Foucault sur la seule pratique du supplice, afin de construire son opposition entre deux moments de l'histoire pénale, pour saisissante qu'elle soit, amplifie et dramatise la transformation des pratiques pénales. À l'inverse, ni le corps, ni la souffrance, ni le spectacle ne s'effacent avec l'avènement de la prison, comme le rappelle l'historienne Michèle Perrault dans l'introduction du collectif qu'elle dirige sur le monde pénitentiaire du XIXe siècle. Je la cite. « Les peines corporelles y sont toujours présentes, tant au niveau du code qu'à celui de la discipline carcérale, qui élabore et codifie sa propre pénalité. Le carcan persiste jusqu'en 1832. L'exposition jusqu'en 1848. Dans les prisons, la gêne, le piton, le pilori, les fers agressent le corps du détenu plus insidieusement, non moins radicalement, ruiné par les carences alimentaires et la misère des lieux. » Et elle conclut « Où est donc la douceur des peines ?» Parallèlement, il faut rappeler que les bagnes ont remplacé les galères et se déplacent outre-mer. Quant aux exécutions, si elles continuent de diminuer en fréquence, elles restent publiques jusqu'en 1939. En somme, bien qu'on puisse convenir avec Michel Foucault qu'à la fin du XVIIIe siècle, le supplice est devenu intolérable pour les juristes et les philosophes, dans les débats des parlementaires et les cahiers de doléances, le passage des textes aux pratiques révèle des transformations bien plus progressives et plus complexes. D'une part, l'ancien monde des châtiments corporels persiste pour beaucoup, et du reste, en partie, jusqu'à la période contemporaine. D'autre part, dans le nouveau monde des prisons, bien des modalités de punir affectant les corps sont imaginées, à ceci près qu'il est possible de les invisibiliser désormais derrière les murs de la détention. L'enquête que j'ai conduite pendant 4 ans dans une maison d'arrêt française montre combien la prison éprouve aujourd'hui encore l'intégrité physique des détenus. Elle le fait par le confinement, 22 ou 23 heures sur 24 dans des espaces d'autant plus réduits que les 9 mètres carrés de cellules prévues pour une personne sont partagés par 2 ou 3, voire 4, obligeant à une cohabitation parfois difficile. Par la vétusté, la dégradation et la saleté des lieux souvent, la présence de cafards et de rats parfois. Par la perte de lumière naturelle due au doublement des barreaux par des caillebotis en plastique supposés éviter la circulation d'objets d'une fenêtre à l'autre. Par les nuisances sonores des claquements de portes, des musiques à haut volume, des appels hurlés et des cris indistincts. Par la privation d'une vie affective et sexuelle normale favorisant les relations contraintes, par les violences perpétrées par des prisonniers ou des surveillants, par l'absence ou le retard des soins en cas de douleur, de maladie ou de blessure, par les humiliations des fouilles intégrales décidées de manière discrétionnaire, par les mesures d'isolement à titre punitif et les placements au quartier disciplinaire, dont la durée et la répétition génèrent crises d'angoisse et manifestations de psychose, les suicides étant 10 fois plus fréquents dans ces cellules que dans le reste de la détention. Il ne s'agit pas d'affirmer que ces conditions condamnées par des juridictions nationales et internationales équivalent aux tourments d'autrefois, mais plutôt de comprendre que plutôt qu'un effacement de la corporéité du châtiment, il y a eu un déplacement. Et si, par conséquent, le changement introduit par la prison à l'âge des Lumières était ailleurs que dans cette insaisissable réduction de la dureté des peines. C'est la question à laquelle répond Michel Foucault lorsqu'il écrit que la réforme vise à faire de la punition et de la répression des légalismes une fonction régulière, coextensive à la société. Non pas moins punir, mais punir mieux, punir avec une sévérité atténuée peut-être, mais pour punir avec plus d'universalité et de nécessité. La prison a en effet ceci de remarquable, qu'elle permet de doser l'intensité de la sanction par la durée de la sentence et que par conséquent, elle favorise une extension indéfinie du champ d'application de la pénalité. C'est ce qu'avait bien compris Cesare Beccaria. Je le cite, « À mesure que les peines seront plus douces, et que les prisons ne seront plus habitées par la misère et le désespoir, les lois pourront se contenter d'indices toujours plus faibles pour ordonner l'emprisonnement. L'invention de la peine de prison, supposée moins éprouvante et moins indigne que les châtiments corporels en place publique, donne ainsi la possibilité d'y condamner pour des violations moindres de la législation, et c'est bien ce que l'on constate à la lecture des codes pénaux au fil des décennies. Si la population carcérale augmente aujourd'hui, ce n'est pas parce que les violations de la loi sont plus nombreuses, c'est parce qu'on en crée de nouvelles et qu'on enferme même pour des délits mineurs. Mais pour que cet élargissement du périmètre du châtiment soit socialement acceptable, il faut qu'il soit socialement différencié. La conjoncture qui a vu naître la réforme, ce n'est pas celle d'une nouvelle sensibilité, écrit Michel Foucault, mais celle d'une autre politique à l'égard des illégalismes. Le voilà donc revenu à la manière dont la société détermine ce qui doit être puni, c'est-à-dire qui doit être puni. Dans la philosophie du droit, on peut distinguer trois grandes questions. Qu'est-ce que punir? Pourquoi punit-on? Qui punit-on? En d'autres termes, on s'interroge sur la définition, la justification et la distribution du châtiment. L'essentiel de la littérature dans ce domaine du droit et de la philosophie porte sur les deux premiers points, la définition et la justification. Le troisième, la distribution, étant considéré d'un point de vue normatif comme allant de soi. Le châtiment doit être également réparti dans la société, indépendamment de qui sont les coupables ou présumés tels. Or, la clé de compréhension du fonctionnement de la pénalité, et même de sa logique fondamentale, réside précisément dans le fait que ce n'est pas le cas. Il faut concevoir, écrit Michel Foucault, un système pénal comme un appareil pour gérer différentiellement les illégalismes et non point pour les supprimer tous. Ce constat le conduit à la fin du livre à renverser la manière dont on pense le droit et la prison. Admettons, dit-il, que la loi soit destinée à définir des infractions, que l'appareil pénal ait pour fonction de les réduire et que la prison soit l'instrument de cette répression, alors il faut dresser un constat d'échec. Car depuis un siècle et demi, ajoute-t-il, on ne cesse de mettre en question l'efficacité de la politique punitive et d'en appeler à des réformes qui se multiplient en se contredisant sans que paraisse changer le résultat de ces efforts. N'est-ce pas alors que le problème est mal posé et que le dispositif tant critiqué n'a pas la fonction qu'on lui assigne? Je le cite, « Il faudrait supposer que la prison, et d'une façon générale sans doute les châtiments, ne sont pas destinés à supprimer les infractions, mais plutôt à les distinguer, à les distribuer, à les utiliser. Qu'ils visent non pas tellement à rendre dociles ceux qui sont prêts à transgresser les lois, mais qu'ils tendent à aménager la transgression des lois dans une tactique générale des assujettissements. » C'est donc, comme me le disait au cours d'une conversation dans sa cellule, un homme primo-délinquant qui avait été condamné à 3 ans d'emprisonnement ferme pour possession et cession de cannabis, et qui comparait la sévérité de sa peine à la clémence des juges envers des responsables politiques corrompus, laissés en liberté malgré des violations de la loi graves et répétées. C'est donc, disait-il, l'injustice de la justice. Telle serait la manière dont le pouvoir utilise le système pénal pour maintenir non pas l'ordre public, comme on le croit, mais l'ordre social. Deux exemples contemporains dans deux contextes nationaux différents permettent de l'illustrer. Aux États-Unis, à partir des années 1970, la déclaration par le gouvernement fédéral de la guerre à la drogue a été à l'origine du phénomène qualifié d'incarcération de masse, correspondant à la fois à la multiplication par 8 de la population carcérale en 4 décennies et à la surreprésentation de détenus noirs devenus 6 fois plus nombreux que les détenus blancs en proportion. La répression du trafic de cocaïne a été un élément décisif de cette évolution, notamment à la suite d'une loi votée en 1986 établissant des peines minimales obligatoires de 5 années d'emprisonnement pour la possession de 5 grammes de crack ou de 500 grammes de poudre. Or, les deux formes de la drogue ont des effets délétères similaires, la différence étant que le crack, 5 à 10 fois moins cher, était alors surtout utilisé par les noirs de milieu populaire, tandis que la poudre, beaucoup plus coûteuse, circulait parmi les blancs des classes moyennes et supérieures. Ainsi, le différentiel de sévérité de la législation, 100 fois plus élevé pour le crack que pour la poudre de cocaïne, était racialement et socialement déterminé. Et il a fallu attendre 2010 pour qu'une nouvelle loi soit votée, non pour supprimer cette disparité, mais pour en réduire le rapport de 100 à 18. Encore faut-il ajouter que son application est aujourd'hui fortement inégale, puisque les Noirs font beaucoup plus souvent l'objet de condamnations que les Blancs lorsqu'ils sont trouvés en possession de crack. Deuxième exemple, en France, dans la décennie 2000, les condamnations pour usage de stupéfiants, principalement du cannabis, ont été multipliées par 3,5, sans que les études épidémiologiques montrent d'évolution dans la consommation. Tandis que les condamnations pour délinquance économique et financière diminuaient d'un cinquième, bien que l'effet constaté par la police ait doublé. Cette double évolution correspondait à des choix politiques opposés. Dans le premier cas, le gouvernement avait annoncé un programme de lutte contre la drogue qui, dans les faits, visait presque exclusivement les quartiers d'habitat social et affectait les usagers bien plus que les trafiquants, les contrôles et les fouilles visant presque toujours des jeunes hommes appartenant aux classes populaires et aux minorités ethno-raciales, ainsi que j'ai pu le constater au cours des 15 mois d'une enquête avec des brigades anticriminalité. Dans le second cas, économique et social, le président de la République avait déclaré sa volonté de dépénaliser la vie des affaires, ce qui avait pour effet concret de soustraire les policiers des enquêtes sur ces délits et de dessaisir les juges du siège pour transmettre les dossiers au parquet afin qu'ils négocient des arrangements avec les contrevenants. Traduction de cette sévérité différenciée qui concerne l'ensemble des infractions, dans la maison d'arrêt où j'ai travaillé, la moitié des détenus se déclaraient sans emploi, un quart étaient des ouvriers, et les cadres ne représentaient qu'un pour cent de la population, qui comptait 35% d'hommes noirs, 32% d'origine arabe et 5% de Roms. La différenciation des illégalismes, c'est donc la production de l'inégalité devant la loi, une loi qu'on vote et qu'on applique pour qu'elle punisse certains et qu'elle en exempte d'autres. Plus encore donc que cette technologie politique du corps à laquelle il a consacré les premières pages de son livre, c'est peut-être l'économie politique de la pénalité que Michel Foucault analyse à la fin, qui lui donne, pour utiliser un concept qu'il a fait sien, son actualité. Conclusion donc, cette actualité, elle s'imposait à lui à l'époque. Ce que sont les punitions et ce qu'est la condition carcérale, écrit-il, c'est peut-être moins l'histoire qui me l'a enseigné que le présent. Car au cours de ces dernières années, des révoltes de prison se sont produites un peu partout dans le monde. Et en effet, il y a eu les mutineries de Clairvaux en avril 1970, Fleury-Mérogis en mai 1971, Toul en décembre 1971, Nancy en janvier 1972, Fresnes en février 1972, Toulouse en mai 1972, parmi plusieurs autres. Encore ne s'agit-il là que de quelques-unes des protestations qui peuvent aussi prendre la forme d'arrêt de travail, de grève de la faim, de prise d'otages, de tentatives d'évasion, d'agressions de surveillants, d'automutilations, de suicides. Et puis il y a eu des révoltes en Italie, à Turin et Milan, en avril 1969 et à Monza et Trévise, en janvier 1971. En Angleterre, à Parkhurst, en octobre 1969, et Albany, en août 1972. Et particulièrement violente aux États-Unis, à Attica, dans l'État de New York, en septembre 1971, se terminant dans un bain de sang avec le décès de 33 prisonniers et 10 surveillants, et McAllister, dans l'Oklahoma, en juillet 1973, entraînant la mort de 3 détenus et l'incendie de 12 bâtiments. Tous ces événements, Michel Foucault les suit, il les accompagne dans des manifestations et des tribunes, et il se rend même à Attica, aux États-Unis, dans l'État de New York, peu après la rébellion brutalement réprimée. Dans l'intervalle, cependant, le GIP, le groupe d'information sur les prisons, a été dissous en décembre 1972 et le quatrième et dernier numéro des brochures de la série « Intolérable » paraît en janvier 1973, alors que commence le cours « La société punitive ». La période d'intense mobilisation autour de la prison se clôt, d'autant qu'en octobre de cette même année, la gauche prolétarienne met fin à son existence. Michel Foucault se consacre alors à l'écriture de « Surveiller et punir ». En 1975, donc, lorsque paraît ce livre, il y avait 26 000 personnes incarcérées dans les prisons françaises, dont la moitié de prévenus. Au 1er juin 2025, on comptait près de 85 000 détenus, dont un peu plus du quart en attente de jugement, donc considérés innocents jusqu'à la preuve de leur culpabilité. Par rapport à un an plus tôt, l'augmentation était de 6 500, soit 8,4%. Pendant 20 mois consécutifs, sauf à deux reprises, le record précédent avait été franchi. En un demi-siècle, la population carcérale a donc plus que triplé et en termes de taux d'incarcération rapporté à la population générale qui a augmenté, c'est une augmentation de 355%. Au début de la décennie 2020, la France était d'ailleurs le seul pays de l'Union européenne dont les prisons continuaient de se remplir. Cette évolution n'est toutefois pas en rapport avec une progression de la délinquance et de la criminalité, mais en rapport avec une aggravation de la dureté des lois et de la sévérité des juges, portant principalement sur les infractions des classes populaires et des minorités ethno-raciales, autrement dit, avec une intolérance sociale toujours plus grande. Mais alors qu'il y a 50 ans, la condition carcérale suscitait l'indignation, mobilisait intellectuels et citoyens, provoquait réformes et améliorations, celle, bien pire, d'aujourd'hui, la France a le taux de suicide en établissement pénitentiaire le plus élevé de l'Union européenne, laisse la société indifférente. Les chiffres s'égrènent, les prisons se remplissent, d'autres constructions sont annoncées, mais de cela, dans l'espace public, il n'est guère question. Qui entend-on protester contre cette situation ? Quelles manifestations de rue dénoncent l'injustice de la justice ? C'est un nouveau chapitre de ce que Michel Foucault appelait l'histoire du présent qui s'est ouvert. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.